Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo et Radio Territoria. Je suis ravie de vous retrouver en direct du SIEC. On vous fait vivre cet événement pendant 2 jours, le rendez-vous incontournable de l'immobilier commercial. Cette année encore, les grandes enseignes, les investisseurs et les foncières se retrouvent pour décrypter les mutations du commerce. Et s'il est un sujet qui continue de fasciner, c'est bien celui des grandes artères commerçantes parisiennes. Malgré la crise, malgré le e-commerce, on va dire, certaines adresses restent plus convoité que jamais. Et justement, on va en discuter avec mon invitée, Elsa de Briganti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-directrice du département commerce leasing chez Knight Frank France. Alors, déjà pour commencer, quand on parle d'une grande artère commerçante parisienne, on parle de quelle rue ?
Alors, chez Knight Frank, on étudie, on s'intéresse de très près à la transformation des artères commerçantes à Paris. Et on va publier pour la deuxième année consécutive une étude sur les artères parisiennes pour pouvoir répondre à cette question. De quoi sont composées les artères parisiennes ? Juste pour donner quelques éléments de contexte, le retail évolue dans un contexte économique dégradé, avec une croissance freinée par l'inflation, le chômage et un taux d'épargne des Français assez élevé. Malgré cela, l'activité reste soutenue par le dynamisme du tourisme, plus de 100 millions de visiteurs en 2025, et des projets d'expansion encore nombreux, ce qui illustre une certaine résilience du secteur. Donc, on peut constater cette résilience du secteur à travers l'étude des artères. Aujourd'hui, on voit que les artères parisiennes ne sont plus homogènes. Chaque rue a sa propre identité. Paris, c'est une vraie mosaïque commerciale avec une polarisation de deux marchés. On a d'un côté le marché des emplacements prime, des artères prime, qui accueillent les enseignes de luxe ou les enseignes internationales. Et de l'autre côté, on a des artères qui sont considérées comme un peu plus secondaires, qui sont des rues plus mixtes, avec notamment de la restauration et du commerce du quotidien.
Et est-ce que vous avez quelques exemples d'artères prime ? Par exemple, les Champs-Élysées, c'est une artère prime.
Exactement. Les Champs-Élysées, c'est une artère prime.
Avenue Montaigne.
Avenue Montaigne, voilà. Toutes les artères où on peut voir une concentration des enseignes de luxe.
Il y a quoi ? Il y a la rue de Rivoli aussi, j'imagine.
Rue de Rivoli, qui est un peu plus mass market, mais qui est considérée également comme une artère prime.
Elle est grande
prime.
En même temps, là.
Elle est très grande.
Et il y a quoi ? Il y a la rue de Passy.
Alors, la rue de Passy, ça a cette particularité d'être une artère avec une demande locale qui ne bénéficie pas trop de demandes touristiques, mais qui est considérée comme une artère majeure.
D'accord. Donc, ce n'est pas prime.
Alors, chez Knight Frank, on étudie les artères prime et les artères majeures. Juste pour vous donner des éléments de comparaison, les artères prime, elles ont, et les artères majeures, elles ont une vacance structurellement faible, c'est-à-dire qu'on observe 4% de vacances locatives sur les artères prime, 7% sur les artères majeures, tandis que pour les artères parisiennes classiques, sur l'ensemble de la capitale, on a plus de 12% de vacances locatives. De plus, ces artères prime, elles continuent à avoir des valeurs locatives élevées, qui sont stables, qui sont soutenues, tandis que les artères dites secondaires ont vu leur valeur locative baisser dernièrement ou se stabiliser. Et il y a aussi une chose qui est assez significative, c'est que les enseignes veulent toutes aujourd'hui être sur ces artères, artères prime ou artères majeures.
Les enseignes de luxe, j'imagine.
De luxe et enseignes internationales, la demande se concentre sur ces artères. Donc du coup, ça crée une certaine tension.
Et ça fait augmenter les prix des loyers.
Ça fait augmenter les prix du loyer, peu de vacances locatives, donc peu d'offres disponibles pour répondre à leurs demandes.
Et quand vous parlez de marques internationales, c'est sur quel secteur ? C'est quoi ? C'est plutôt la mode ? C'est plutôt... la maison, l'habitat,
les marques internationales, ça peut être de tout. Il faut savoir qu'un tiers des artères parisiennes accueillent des enseignes étrangères. Donc ces enseignes étrangères, ce sont des enseignes européennes, mais aussi des enseignes nord-américaines mais aussi on a constaté une montée en puissance des enseignes asiatiques dernièrement.
Ah oui, sur les champs, il y en a quelques-unes. Ouais, ouais.
Voilà. Nous, on a installé chez Night Frank l'enseigne Muji, qui est une enseigne japonaise rue de Rivoli sur 3000 m².
Il y a Miniso aussi.
Miniso, exactement, qui a un développement pour les enfants assez actif. Il y a Pop Mart qui ouvre son premier flagship boulevard Haussmann. Donc ces enseignes...
Et ça, c'est nouveau ? Ça, c'est l'arrivée des enseignes asiatiques ?
Alors, c'est nouveau dans le sens où ce sont des enseignes qui sont arrivées à saturation sur leurs marchés locaux, qui ont peur, enfin, qui ne souhaitent pas se cannibaliser leurs boutiques existantes et qui cherchent de nouveaux relais de croissance. Et bon, la France apparaît comme un très bon relais de croissance pour ces enseignes. Elle privilégie par contre, il faut savoir une chose, c'est que toutes ces enseignes internationales privilégient les emplacements les plus visibles avec le plus de flux. Donc du coup, ça donne aux artères une certaine dimension internationale qu'elles n'avaient pas forcément avant.
Ouais, c'est vrai que Miniso, bon, je connais parce que mes enfants adorent. Ouais. C'est vrai que c'est les Champs-Élysées et sinon, c'est dans le métro. Mais là, dans des stations où il y a énormément de passages. Je crois qu'il y en a une qui au croisement du RER, des métros, etc. Donc oui, il faut qu'il y ait un flux. Qui alimente ça, quoi.
Il faut qu'il y ait un flux qui alimente ça, mais comme vous disiez à très juste titre, les meilleurs exemples de flagship d'enseignes internationales, c'est sur les Champs-Élysées, en fait. C'est là où on voit, où on voit ces enseignes s'exprimer dans des nouveaux concepts. Ça montre aussi une tendance qui est une tendance de fond maintenant dans le retail. C'est que les enseignes cherchent le fait de vendre ou d'acheter un produit ne suffit plus au client et désormais le client a besoin de vivre de l'expérience. Ça fait partie des nouveaux formats commerciaux. Les boutiques sont des boutiques expérientielles.
Et ça, quand vous dites une boutique expérientielle, c'est quoi par exemple ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Moi, sur l'échange, je me rappelle de... Bon, alors ça, c'était un pop-up, vous m'avez dit éphémère, je me rappelle de Stranger Things.
Oui.
C'est vraiment l'expérience de la série. D'ailleurs, il y avait un stand l'année dernière, je ne sais pas s'il y est toujours, il y avait le stand Stranger Things sur le SIEC, qui était aussi une expérience, on se baladait dans le salon de la série. C'est quoi un magasin ? Comment on vit une expérience dans un magasin ? On pense à quoi, en fait ?
Alors, un magasin expérientiel, que ça soit un lieu hybride ou une boutique immersive, c'est un lieu où se mêle à la fois du retail, de la restauration, du loisir, de l'expérience. Quand on regarde les projets à venir d'LVMH ou même la boutique Restoration Hardware qui a ouvert sur les Champs-Élysées il y a quelques mois, on voit que cette boutique se côtoie à la fois la gastronomie, l'art, la mode, la déco. En fait, c'est pour vendre de l'expérience de marque aux clients parce que les clients ne se contentent plus de l'acte d'achat. Ils ont besoin de vivre autre chose.
Ouais.
Et les boutiques deviennent des vraies destinations commerciales. Et même, on peut pousser le raisonnement en se disant, les boutiques, est-ce que ça ne devient pas des destinations touristiques à part entière parce que les gens sont prêts à faire la queue pour y accéder.
C'est marrant de voir le changement, en fait. Ça y a vraiment pour attirer le consommateur.
Complètement. Et la plupart du temps, ces boutiques sont soutenues, l'activité est soutenue par le tourisme. Parce que ça soit pour les enseignes de luxe ou les enseignes internationales, le tourisme à Paris, c'est essentiel.
Bien sûr.
Sans le tourisme,
Et quand on parle de touristes, est-ce que vous savez, alors c'est peut-être pas dans vos datas, mais d'où viennent les touristes ? Est-ce que c'est des Américains ? Est-ce que c'est des Asiatiques ? Est-ce que ça vient du Moyen-Orient ? Est-ce que...
Alors, on a un
tourisme... Quelle est la clientèle qui soutient ce luxe, par exemple ? Parce qu'on voit que le luxe cartonne en France, et tant mieux.
Ouais.
On voit les marques françaises, comme LVMH, c'est génial, parce que ça crée de l'emploi, ça fait profiter le pays. Quel est le tourisme qui nous permet ça ? Est-ce que vous avez quelques datas là-dessus ?
Alors, en ce qui concerne les touristes, on a quand même un fort tourisme américain en France. Faut le savoir. Il y a aussi tourisme européen.
Ouais.
En ce qui concerne le Moyen-Orient, avec les tensions au Moyen-Orient, la clientèle a un peu délaissé l'Europe et la France. Mais du coup, ça panne. Pour nous, Français, pour nos commerces français, on peut s'interroger sur le report potentiel de flux touristiques vers l'Europe, et notamment vers la France et vers Paris. Et l'impact que ça pourra avoir sur, sur l'attractivité de nos commerces, parce qu'en plus on sait que les enseignes de luxe à Paris ou les enseignes internationales sont souvent assez sont très demandées par ce type de clientèle. Pour vous donner 2-3 éléments sur les enseignes de luxe à Paris, il y a eu une trentaine d'ouvertures en 2025. Il y a eu une concentration géographique sur uniquement 4 artères. Un tiers de ces ouvertures ont été faites par des maisons de luxe LVMH, Kering et Richemont. Et il y a aussi une concentration sectorielle où 50% concernent la mode et les accessoires.
Ouais. Donc c'est une grosse part du marché.
C'est une grosse part du marché, oui. Mmh.
Comment on analyse la consommation des Parisiens ? Là, par exemple, vous m'avez dit, vous voyez, donc par exemple, la rue de Passy, c'est de la consommation locale. Donc ça veut dire que c'est quoi ? C'est les habitants du quartier qui viennent, en fait.
Nous, on l'analyse à travers les demandes qu'on a de nos clients et les demandes qu'on a des enseignes, en fait. Pour tout ce qui est commerce du quotidien ou commerce de proximité, des commerces qui sont moins dépendants de cette demande touristique, on voit qu'elles veulent s'implanter sur des axes tels la rue de Passy, une partie de la rue de Rennes également, même si la partie du côté boulevard Saint-Germain va accueillir des flagships plutôt d'enseignes internationales. On a une demande locale qui a un certain pouvoir d'achat, parce qu'il faut savoir que ça soit sur les artères prime ou sur les artères secondaires, on note une certaine premiumisation des artères. Il y a une montée en gamme à Paris qui est due certes à la montée du tourisme, mais aussi à ce tourisme de luxe, mais aussi à la montée du pouvoir d'achat des Parisiens. Et la demande locale est de plus en plus exigeante, donc elle attend d'avoir des commerces à la hauteur de ce qu'elle souhaite. Ouais.
Plus en plus exigeante par rapport à quoi ? Par rapport au prix, par rapport aux produits, par rapport à l'expérience, justement ?
Par rapport au prix, par rapport aux produits, enfin, ça n'échappera à personne. Aujourd'hui, on peut acheter sur Internet. Donc, quand un client se déplace dans un magasin, c'est pour vivre autre chose que l'acte d'achat. Donc,
ou c'est pour voir le produit en vrai.
Ou pour voir le produit en vrai. Mais il faut qu'il y ait un service derrière. Et puis, pour en revenir juste au luxe, en fait, on s'aperçoit que les comportements qu'on retrouve chez les grandes fortunes ou chez les ultra-riches, ces exigences qu'ils ont pour des actifs ultra-prime, on la retrouve avec une certaine moindre mesure, mais chez la clientèle locale et la clientèle parisienne. Ouais.
Mmh. J'aimerais juste qu'on revienne. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'expérience LVMH sur les champs. C'est vrai qu'il y a une grosse malle. Vous pouvez nous dire ce que c'est ? Parce que c'est vrai qu'on se demande ce que c'est. Les gens se demandent, prennent des photos. On voit des gens qui s'arrêtent, des touristes, des Parisiens. C'est quoi cette expérience, en fait ? C'est un hôtel, c'est ça ?
Alors, ça va être un établissement qui va accueillir quelques suites. Enfin, pour vous... En fait... Pour vous expliquer le comportement d'achat, de consommation de la clientèle de luxe, chez Knight Frank, nous, on étudie chaque année dans une étude qui s'appelle le Wealth Report. On analyse l'évolution de la richesse privée et son impact sur les marchés immobiliers. En 2025, vous aviez à peu près 25 millions d'ultra-riches dans le monde, avec une augmentation de 8% par rapport à 2024. Bon. Cette clientèle est très exigeante, comme je disais avant, elle est très exigeante. Elle cherche des actifs qui sont des actifs ultra prime, mais dans toutes les classes d'actifs confondues, qu'il s'agisse du bureau, qu'il s'agisse du résidentiel, qu'il s'agisse de l'hôtellerie ou du commerce. Et ce projet LVMH illustre assez bien la demande de ces ultra riches, parce que ces actifs, ils ont tous le point commun de réunir à la fois la rareté, le service et l'expérience. Et donc, quelque chose qui est rare, c'est pour ça que le projet LVMH n'aura que quelques suites à proposer à ses clients, et non pas un hôtel avec un gros porteur avec quelques suites, ça crée la rareté. Donc, ça fait quelque chose de ultra premium que seuls quelques privilégiés peuvent s'offrir.
Pourront s'offrir.
Voilà.
D'accord. Donc, ce sera un petit hôtel. Est-ce qu'on peut quand même appeler ça hôtel ? Ce sera un petit.
Même pas.
Quelques suites pour certains clients qui viennent en vacances, enfin, qui viennent en vacances à Paris et qui viennent consommer sur place.
Voilà.
Ouais, et ce sera ouvert à partir de quand ?
Normalement, 2026.
Donc, c'est bientôt, là. Ou est-ce que ça fait un moment ?
C'est imminent. Et il va y avoir aussi certainement du commerce et peut-être même un musée ou une galerie. Mais bon, vous savez, le VMH, ils ne communiquent pas trop sur leur projet pour créer l'effet de surprise. Donc,
ouais, bien sûr. Et la malle, là, c'était pour cacher en fait les travaux, c'est ça ?
C'est pour cacher les travaux et puis c'est un formidable outil marketing.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'il faut savoir que les enseignes sur les champs, la plupart, utilisent leur flagship, utilisent leur magasin comme outil marketing. Et il n'y a peut-être pas forcément une... Alors certes, elles ont envie d'être profitables,
ouais,
mais la logique financière n'est pas la priorité.
La France continuera d'attirer les grandes marques du monde entier.
Ah bah, la France aujourd'hui, c'est une vitrine du commerce mondial. Oui, ça, c'est
ça. Ça,
c'est
ça changera pas.
Ça changera pas, non.
Est-ce qu'on est le premier pays européen à attirer les grandes marques ? Il y a l'Italie aussi, non ?
L'Italie également. Bah, nous, on a la chance en France d'avoir quand même des groupes de luxe qui sont ancrés, qui ont un réseau établi, qui résonnent sur la scène internationale. Donc. Oui, on espère continuer à être parmi les leaders du moins.
Un petit mot peut-être pour finir sur le salon SIEC. Alors vous êtes présente au SIEC. C'est quoi pour vous ce salon ? Pourquoi c'est important d'y être ?
Alors, chez Knight Frank, nous, c'est important d'y être parce que ça nous permet d'être au plus près de nos clients, hein, que ce soit les enseignes, mais également les bailleurs, de pouvoir aussi... communiquer sur nos dernières actualités, de pouvoir présenter ce qu'on sait faire et puis c'est un moment de partage avec nos clients où on peut se voir dans un cadre différent. Donc c'est un événement qui est important et c'est la deuxième année où...
Oui, c'est ça, l'année dernière, c'est la première, je pense.
Ouais, où on prend un stand et...
Donc ça a été intéressant, donc si vous en prenez.
Ouais.
Vous avez eu un retour sur investissement ?
Bon, on a toujours un retour sur investissement. Bon, nous,
que ce soit en termes d'image ou
exactement,
en termes de...
C'est toujours très intéressant. Et puis on partage en plus le stand avec nos équipes du Capital Market... retail, donc ça permet de montrer à nos clients tout notre savoir-faire. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour
merci
cette analyse très, très intéressante en tout cas sur les artères commerçantes, les grandes artères commerçantes, les artères prime, les artères majeures, on l'a vu, parisiennes. Merci Elsa de Briganti. Puis nous, on se retrouve dans quelques instants, toujours en direct du SIEC 2026. On vous fait vivre cette édition pendant 2 jours à la Porte de Versailles. À tout de suite.
Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.